carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Pierre-Jean-Rémy, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Canal Académie. Le public n'a probablement pas oublié votre livre « Le sac du palais d'été » qui vous a valu en 1971 le prix Renaudot. Vous êtes écrivain, vous avez été diplomate, vous avez été le directeur de l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis, de 1994 à 1997, puis le président de la Bibliothèque nationale de France jusqu'en 2002. Aujourd'hui, vous vous consacrez totalement à l'écriture. Depuis 1988, vous êtes membre de l'Académie française où vous avez été élu au fauteuil de Georges Dumézil. Vous occupez donc le 40e fauteuil. Vous avez reçu sous la coupole vos confrères de l'Académie François Cheng, Assia Djebar et Dominique Fernandez. Nombre de vos romans traduisent votre passion pour l'art lyrique qui s'est aussi exprimée par votre contribution à de nombreuses revues spécialisées. Vous avez écrit pour l'hebdomadaire Le Point en qualité de critique théâtrale. De la même façon, vous avez tenu des chroniques régulières d'opéra et de musique lyrique dans divers magazines tels que Lyrica, Harmonie, Diapason et la Revue des Deux Mondes. Vous avez également publié, en dehors de vos romans, plusieurs ouvrages sur la musique, dont les biographies de Maria Callas et de Berlioz. Cette passion vous a valu en 1981 d'être chargé des réflexions ayant conduit à l'élaboration du premier projet de création d'un nouvel opéra à Paris, l'Opéra Bastille, dont on fêtera prochainement le trentenaire. Enfin, en 2004, vous avez écrit un dictionnaire amoureux de l'opéra chez Plon. Je suis ravie de vous recevoir dans Carrefour des Arts, une émission de Canal Académie qui est partenaire avec le Théâtre du Châtelet. Hier soir, Pierre-Jean-Rémy, vous avez assisté au Théâtre du Châtelet à la générale d'un opéra très peu connu de Wagner, Les Fées, une de ses premières œuvres, le premier opéra qu'il ait achevé. Il avait 20 ans, ça laisse songeur, on a envie d'être curieux parce qu'on connaît Wagner par ses grandes œuvres, Le Vaisseau Fantôme, Lohengrin, Parsifal, Tristan et Isolde. Et Wagner a composé Les Fées en 1833. L'œuvre n'a été montée qu'après sa mort, 4 ou 5 ans plus tard, en 1888. Depuis cette création mondiale, elle est très peu jouée, car elle a été jugée comme une œuvre mineure. Et Jean-Luc Choplin, le directeur du Châtelet, qui ne craint pas de prendre des risques, invite le public à la découvrir. C'est donc la première fois que les Fées sont jouées en France, en 2009. C'est une première française. Un événement, pourrait-on dire, parce qu'on ne l'a pratiquement jamais entendu. On entend tout sauf du Wagner, nous disait hier un spectateur près de nous. Mais vous, qu'avez-vous entendu ?
Alors, je réponds dans 2 secondes à votre question, mais je commence par dire que cette soirée pour moi a été un émerveillement. Et je pense que ça l'était, puis on va revenir là-dessus, mais je pense que ça l'était pour une grande partie de la salle. C'était non seulement une découverte, mais la production, musicalement et scéniquement, c'était superbe. Voilà. Je ne mâche pas mes mots. Alors maintenant, j'arrive à l'œuvre. Eh bien, Les Fées, c'est le deuxième opéra abordé par Wagner. Son premier, Les Noces, 1 ou 2 ans plus tôt, n'a pas été terminé. On n'en sait rien. L'opéra date, vous l'avez écrit, l'écrit en 1933-34. 2-3 ans plus tard, il écrira La Défense d'Aimée, qui est jouée. Il écrira encore Rienzi, qui sera joué, et puis enfin, un peu plus de 10 ans après, ça sera Tannhauser et ça sera le vrai Wagner. Alors, Les Fées, c'est quelque chose qui avait un peu mauvaise réputation. C'était pas donné, vous l'avez dit, on l'a donné après sa mort en 88. J'étais à Londres en 1888, j'étais à Londres en 1969, ça a été donné, et je ne m'en souviens même pas, en tout cas, je ne l'avais pas vu. Je crois qu'il existe un enregistrement qui, paraît-il, est bien, dirigé par Wolfgang Zawalich, un enregistrement de Munich, que je n'ai pas entendu, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai... Donc c'est un opéra qui a la réputation d'être mal aimé. on dit, c'est pas du bon Wagner, vous avez cité tout à l'heure un spectateur, un de nos collègues dans la salle qui a dit « j'ai tout entendu sauf du Wagner ». Je crois que le premier argument, la première réflexion qu'on peut faire après cette représentation, c'est que c'est une œuvre beaucoup plus intéressante qu'on ne le dit. Bon, c'est vrai, Wagner est encore sous l'influence d'une part un peu de l'opéra italien, mais il le sera aussi dans Lohengrin. Il est sous l'influence un peu du grand opéra français, genre Meyerbeer. Il est sous l'influence d'un genre qui fait floresse dans l'Europe à l'heure actuelle, qui est la féerie,
oui.
Et qui était un mélange d'opéra, de danse, d'effets spectaculaires, etc. La féerie, à proprement parler, c'était quelque chose de très, très populaire qui plaisait beaucoup et qui n'était pas forcément de bonne qualité musicale. Mais il est aussi sous d'autres influences qui sont les premiers compositeurs d'opéra allemand. Il y a peut-être quelque chose du Mozart allemand, du Mozart Singspiel. Il y a sûrement quelque chose de Weber.
Oui.
Je pense en particulier à Orient et à Oberon. Il y a sûrement quelque chose d'un compositeur qui est un peu oublié maintenant, qui s'appelle Marschner, qui était un grand romantique allemand et qui a écrit en particulier un opéra une dizaine d'années avant Wagner qui s'appelait Le Vampire. Et tout ça, conduit à une œuvre assez hybride, avec des très beaux moments. Je pense en particulier à l'ère du personnage féminin principal, Ada, au premier acte. Et je pense à un certain nombre de chœurs, un certain nombre d'airs. C'est vraiment très beau. Alors, simplement voir d'où vient cet opéra. Maintenant.
Est-ce que Wagner a déjà fait un compromis entre cet héritage de l'opéra italien et de l'opéra romantique allemand ?
Ben, c'est la première œuvre qui l'est faite.
Voilà.
Oui.
Est-ce qu'il y a un compromis avec cet opéra italien,
oui.
Au niveau de la construction des airs féminins, dans ce que vous avez entendu ?
Oui, oui. Il y a même un sacré compromis. Vous parlez des airs féminins. Les deux airs d'Ada, le personnage féminin, sont beaucoup plus dans la tradition de l'air de Pamina, par exemple, dans La Flûte enchantée, qui est un air moderne, entre guillemets, que dans la tradition, pour revenir à Mozart, que dans la tradition des airs de la comtesse ou des airs d'Elvire ou d'Anna de Don Juan. C'est déjà autre chose. Pamina, André Tuboeuf l'avait bien fait remarquer, c'est vraiment une nouvelle phase de l'opéra. Et là, on a. Alors, ce qu'on vous a aussi qui est intéressant, c'est qu'on commence quand même à entendre un peu Wagner.
Oui.
On a, en particulier dès le début, on a un très grand récitatif qui est admirablement fait. Je crois que c'est Laurent Naouri qui dit ce récitatif. Enfin, un aria récitatif qui. Un fait penser à beaucoup de ces grands moments de déclamation lyrique que cavotane quand il raconte tout ce qui s'est passé avant, et qui justement, comme beaucoup d'airs de ces morceaux du Wagner postérieur, raconte ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Là dans le cas précis, c'est il y a 8 ans. Donc on sent déjà Wagner, et puis on sent Wagner dans certains appels un peu glorieux qui évoquent ce que sera Lohengrin, par exemple. Mais je me demande s'il ne faut pas parler, peut-être, pardonnez-moi,
de l'histoire.
Oui, voilà, oui. Voilà, je crois qu'il faut parler
tout
de l'histoire.
À fait. Une histoire un peu confuse, un peu compliquée, mais en fait, qu'on a très bien comprise grâce à une mise en scène exceptionnelle dont vous avez peut-être parlé. En résumé, mais vous allez compléter ce que je dis. Vous évoquiez Laurent Naouri dans le rôle de Gernot, qui est le serviteur du prince Arindal, qui est amoureux de la fée Ada. C'est le début de l'histoire et elle va renoncer à son immortalité par amour pour lui. Et il va y avoir évidemment toute une série d'épreuves. Comment cet amour va-t-il être possible ? En gros, c'est ça. Elle doit-elle renoncer par amour à son immortalité ? Ça serait le début de l'intrigue. Évidemment, il va se passer plein de choses. Là, et ça commence, on est effectivement à l'acte 1, dans le récit, pas dans l'action, où Wagner fait comprendre au spectateur ce qui s'est passé. C'est un long récit, cet acte 1. On n'est pas trop dans l'action.
Oui, alors, en réalité, ces faits sont empruntés, à une pièce de l'italien Gozzi qui s'appelle « La femme serpent ». Et à bien y réfléchir, je me pose une question.
Mmh.
Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un pourra me répondre si on l'entend. Mmh. Je me demande si la femme serpent de Gozzi, que je n'ai pas lue, hein, mais n'est pas elle-même empruntée à un opéra chinois qui s'appelle Le Serpent Vert, qui raconte l'histoire, dans le cas précis, ce n'est pas un jeune homme, mais c'est un apothicaire qui cueille des simples dans la montagne. C'est un apothicaire qui tombe amoureux d'une femme très belle, et qui est en fait un serpent. C'est le serpent vert, on fait tout pour le décourager. Un moine méchant essaie de l'en empêcher. Et finalement, après avoir subi des tas d'épreuves, la femme, alors dans le cas précis, renoncera aussi à son immortalité et l'épousera. Alors juste, si vous me permettez une petite anecdote, c'était l'opéra préféré de Mao Tse-tung. Et Mao Tse-tung, deux histoires sur lui, après je vous promets, je reviens à Wagner, deux histoires sur lui. D'une part, il aimait tellement l'œuvre qu'il détestait le moine méchant, et quand il allait saluer les acteurs, il ne serrait jamais la main du chanteur qui faisait le rôle du moine méchant parce qu'il trouvait que c'était pas quelqu'un de sympathique. Et deuxième anecdote aussi qui est très célèbre, après un des airs du Serpent Vert, qui est un des grands classiques de l'opéra chinois, je ne suis pas sûr de dire que ce soit de l'opéra de Pékin, c'est une autre, mais enfin, après l'air d'un grand air du Serpent Vert, il s'est levé pour applaudir, mais il avait débouclé sa ceinture et son pantalon lui est tombé sur les fesses, sur les jambes, et c'est une histoire traditionnelle qui montre combien cette pièce a fait du succès en Chine. Alors, maintenant, j'en reviens à la pièce. Donc, c'est une intrigue qui rejoint celle de beaucoup d'œuvres de cette époque, ou de plus tard, ça rejoindra plus tard la Russalka de Dvorak, qui elle-même est empruntée à Ondine, cette œuvre de la fin du XVIIIe siècle dont Giraudoux nous a donné quelque chose. Et puis ça rejoint aussi Lohengrin, la femme dans Lohengrin, c'est intéressant d'ailleurs, dans Lohengrin c'est la femme qui ne doit pas demander le nom à l'homme et qui le demande, alors que là on inverse les rôles. C'est aussi emprunté en partie à La femme sans ombre. Dans La femme sans ombre aussi de Strauss, vous avez une impératrice qui, ayant besoin, voulant avoir autre chose, est prête à acheter l'ombre d'une femme ordinaire pour pouvoir avoir un enfant, et pour ça elle renonce à son immortalité. Et si ça marche pas, c'est pas elle, comme dans la pièce qui est comme dans l'œuvre de Wagner, qui est changée en pierre, c'est l'empereur qui sera changé en pierre. Donc vous avez une sorte de décalage dans les personnages, et puis vous avez quelque chose aussi qui évoque peut-être la flûte enchantée, dans la mesure où il y a un certain nombre d'épreuves qui sont passées. Donc l'histoire, c'est une histoire très compliquée à première vue, que vous l'avez fort bien dit, nous avons compris hier. C'est une princesse, une reine, qui est mariée avec un jeune roi, ils ont déjà deux enfants. Et il pose une question qu'il ne devrait pas poser, qui es-tu? Et à ce moment-là, elle risque d'être changée en pierre, sauf si il passe un certain nombre d'épreuves qui sauveront.
Puisque pour l'aimer, elle ne devait en aucun cas répondre à ses questions, voilà, ou lui révéler ses origines.
Voilà, mais ce n'est pas plus compliqué que beaucoup d'histoires d'opéra baroque. Et quant à l'œuvre elle-même, je voudrais juste dire une chose sur l'aspect découverte. On a donc découvert une œuvre beaucoup plus intéressante qu'on le dit, encore que nos voisins à gauche, hier, disaient qu'on comprenait pourquoi ce n'était pas joué après le premier acte, je n'étais pas de son avis. On se demande pourquoi ça n'a pas été donné tellement, alors qu'on nous abreuve ou nous inflige quelquefois tellement d'opéras baroques qui sont interminables et qui sont sûrement beaucoup moins intéressants dans l'histoire de la musique que cette première œuvre achevée de Wagner.
Hier soir, qu'est-ce qui vous a séduit dans la mise en scène d'Emilio Saggi, qui là a vraiment fait preuve d'ingéniosité pour démêler cette histoire un peu compliquée et qui accompagne si bien aussi la musique qu'on entendait fort, fort bien, l'équilibre entre les deux?
Alors je dirais que tout m'a séduit, c'est-à-dire que d'une part, Emilio Saggi, qui est espagnol, et ses compères, en particulier l'auteur des costumes, Jesús Ruiz, l'auteur des décors, Daniel Bianco, les lumières, c'est très beau et c'est parfaitement adapté au Châtelet.
À cause des grandes féeries.
Voilà, Jean-Luc Choplin, le patron du Châtelet, a eu tout à fait une bonne idée de remettre ça, parce que c'est une de ces grandes féeries comme le Châtelet en faisait. Et cette production, Sagi a fait beaucoup d'autres choses, mais il a fait le chanteur de Mexico aussi au Châtelet. Donc c'est quelqu'un qui sait aller vers le public et l'ensemble. J'étais avec une amie, une jeune femme chinoise, qui le voyait bien sûr pour la première fois, mais qui va beaucoup à l'opéra depuis quelques années qu'elle vit en France. Et elle m'a dit que c'était absolument extraordinaire, c'était beau, elle était absolument enthousiasmée par ce spectacle. Alors ce qui m'a beaucoup séduit, c'est donc cette atmosphère générale, ces couleurs. Alors, juste peut-être deux petites remarques. Au premier acte, j'ai trouvé que c'était un peu kitsch, l'énorme rose qui arrive. Vous avez une rose, c'est pas le chevalier à la rose, on a une petite rose d'argent. Et vous savez que dans la vie, une rose en argent, j'ai voulu en acheter il y a très longtemps pour une fiancée, et c'est pas joli, une rose d'argent. Tandis qu'à la scène, la rose du chevalier à la rose, c'est une minuscule petite rose. Là, c'est une rose énorme qui doit faire 6 mètres de long, parfaitement imitée, c'est qui sort sur la scène, donc, et d'où sort la princesse. Donc les décors, c'était un peu kitsch là, mais c'est très très bien, c'est adapté à l'esprit châtelet, et il y a tout, il y a des lumières,
oui,
tout est
fait,
très rose, c'est
oui,
très beau.
C'est
voilà.
Rose, c'est avec des paillettes bleues sur le sol.
Qui font l'eau.
Qui renvoie la lumière. Mais en même temps, en dehors de cette rose posée sur le plateau, il n'y a rien d'autre. À part les paillettes. Elle suffit.
Elle suffit. Et il y a des rideaux de scène, il y a des projections, il y a des lumières. Ça fonctionne. Alors, c'est un peu kitsch, mais le seul petit reproche que je ferai, les mouvements de foule sont très beaux. On commence par une image de toutes les fées en rose. On aurait écrit, quand on en a vu la première fois, une peinture Tang avec. Je suis très
long
cynisé.
Costume.
Ces longs costumes, ces chignons des fées. C'est extraordinairement séduisant.
Elles quittent la scène de façon magique.
Voilà, elles ont l'air d'aller vers le fond. Alors peut-être que la direction d'acteur est un peu simple, mais c'est dans l'esprit, vous voyez, quand à la fin du deuxième acte, la princesse, le prince n'ayant pas, le roi Arindal, n'ayant pas passé les épreuves, lui dit au revoir, il a une manière de tendre les mains vers elle, bon, bah c'est du grand théâtre, c'est du grand opéra, et le tout fonctionne. Donc, une mise en scène tout à fait épatante, et un public qui marche complètement. Si vous voulez, ce qui se passe sur le plan musical.
Bon, puis,
d'abord disons que Minkowski,
direction d'orchestre,
l'œuvre, je ne la connaissais pas, donc je ne peux encore une fois pas le juger par rapport à autre chose. Minkowski a fait un curieux parcours, puisque depuis plus de 20 ans, il est passé du baroque, qui faisait surtout au début à un petit peu tout, et là il donne très bien ce qu'on peut attendre de cette œuvre, avec quelquefois des effets très faciles, et puis... en particulier, déjà, Wagner, on sent des solos de violoncelle tout à fait bouleversants. On sent un solo de clarinette. Il y a un air, je ne sais plus lequel, il aurait fallu que je note, qui est accompagné par une flûte et une clarinette, qui est très, très, très jolie. Et Minkowski sait bien les mettre en valeur. Alors, la distribution, et c'est là que...
On a été soufflé
d'abord par une chanteuse, dont il faut tout de suite retenir le nom. Il y a deux distributions, n'est-ce pas? La deuxième, il paraît qu'elle est bien aussi, elle s'appelle Deborah Mayer. Mais la première, qui s'appelle Christiane Libor, est absolument époustouflante. Là, on a une vraie chanteuse à la fois wagnérienne, à la fois belcantiste, et cet air du deuxième acte dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me paraît le sommet de l'œuvre, qui est un air qui doit durer un quart d'heure, 20 minutes, est absolument éblouissant. Ça se situe quelque part... Alors, ça se situe un petit peu entre l'air de Léonore au premier acte de Fidelio, et puis... du Rossini aussi, et il y a un registre, une puissance et des pianissimi tenu longuement, c'est bouleversant. La salle a éclaté d'applaudissements à la fin de l'air. Et lorsqu'elle est revenue saluer à la fin, alors là, c'était un déchaînement. L'ami avec qui j'étais m'a dit que le théâtre tremblait tellement on tapait des pieds. Donc, distribution dominée par cette formidable chanteuse qui chante encore 4 fois ou 5 fois. Et c'était très beau. Le ténor était très bien aussi. Le ténor est beaucoup plus jeune. Il s'appelait, celui que j'ai vu s'appelait, puisqu'il y en a deux, il s'appelle William Joyner. Et ce William Joyner est beau. Vocalement, il était très bien. On m'a fait remarquer qu'il était mieux la veille et que peut-être qu'il s'économisait un petit peu, puisqu'encore une fois, c'est une générale. Et dans une générale, les chanteurs ne sont pas censés chanter à pleine voix. Là, il faisait beaucoup plus que marqué, comme on dit, mais il était très bien.
Belle voix aussi.
Et puis alors, dans les grands seconds rôles, il y a 2 ou 3 chanteurs qui, vraiment, alors là, étaient eux aussi exceptionnels. Je pense bien sûr, mais il l'est toujours, à Laurent Naouri, qui chante le rôle de Gernot, ou Gernot, qui fait ce récit du début, qui est un vrai récit wagnérien, et la voix de Laurent Naouri est superbe. Il y a Laurent Alvaro dans le rôle de Morald, qui est d'ailleurs remarqué que Morald, c'est presque un personnage d'autre opéra de Wagner. C'est Morald dans l'autre opéra de Wagner. C'est vraiment très, très beau. Et il y a 2 jeunes filles, beaucoup plus jeunes. En particulier, il y en a une que j'avais déjà entendue qui s'appelle Judith Gauthier, qui chante Drola, la sœur du roi, à Rindal, qui est très bien. Et puis, qui a un duo comique avec Laurent Naouri. C'est le seul moment d'ailleurs comique. Il y a un duo comique qui fait un peu penser à... Zerline et Mazzetto, qui fait un peu penser à un air de jalousie. C'est de la très, très, très jolie musique, très décalée par rapport au Wagner que nous connaissons. On n'a jamais vu ça dans Défense d'aimer, on trouvera peut-être un peu plus. Mais enfin, je connais très mal Défense d'aimer. Maintenant, j'ai l'impression que je connais beaucoup mieux les fées, qui fait un duo comique tout à fait adorable. Et il y a une autre jeune femme qui est très bien, qui s'appelle... Salomé Allaire, qui est puis une autre qui s'appelle, pardon de mal prononcer, Lila Tetruashvili. Tous sont vraiment parfaits. Donc il y a vraiment un ensemble, cette soirée d'hier, découverte d'une œuvre, réalisation parfaite, surtout pour le Châtelet, mais dans l'esprit du Châtelet. Salut à Jean-Luc Choplin. Mise en scène, décor parfait, et puis Minkowski très bien. Et une véritable jubilation dans la distribution. C'est rare que je sorte aussi enthousiasmé d'un spectacle. Le dernier, c'était Lady Macbeth de Mzensk à la Bastille. Parfait sur toute la ligne.
C'est assez rare qu'on ait à l'opéra une scène de folie masculine.
Oui,
on est surtout
habitué, mais il y en a une très fameuse, c'est celle de Roland, dans Orlando Furioso, dans tous les Orlando Furioso, on a une scène de folie masculine, mais on est surtout habitué évidemment à Lucia ou à ces grands rôles de folie féminin. Et là, il y a une tradition en particulier dans la tradition du XVIIIe siècle italien.
Alors, vous disiez tout à l'heure que cette œuvre avait été peu représentée. On pourrait se demander pourquoi quand même ? Qu'est-ce qui a pu mettre aux oubliettes, même si elle était jugée mineure, etc. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on y adhère autant comme ça ? D'abord parce qu'il y a eu cette mise en scène, cette, oui. cette distribution extraordinaire, mais...
D'un air dégoûté, quelqu'un qui me paraît très bien connaître ces choses-là, et qui hier, donc au premier entracte, je lui dis, on se demande pourquoi c'est pas donné plus souvent, il me dit, ce que vous avez vu, vous le prouve, on a entendu du Mendelssohn. Il n'a peut-être pas tout à fait tort, encore que c'est moins Mendelssohn que d'autres, mais c'est une œuvre qui est tellement peu wagnérienne. Vous savez, Rienzi est une œuvre qu'on entend beaucoup plus,
oui,
qu'il écrit 4-5 ans, voilà. 3-4 ans après, qui est un peu ennuyeuse, qui est beaucoup plus plomb-plomb.
Là, il y a beaucoup d'énergie.
Oui.
Elle est vraiment avec l'amour dévorant des héros. Débordant.
Là, c'est quelque chose qui est, je vous l'ai dit, qui est à mi-chemin entre la féerie, ces histoires italiennes très, très, très compliquées de l'opéra baroque.
Le côté héroïque. C'est un peu débordant.
Les grands opéras de Weber, en dehors du chasseur maudit là, du Waldschütz, sont pas souvent donnés non plus. Orient, on ne donne pas si souvent, au moins Oberon n'est pas donné si souvent. C'est le début de l'opéra allemand, et là on est vraiment, je vous l'ai dit, à cheval sur tellement de choses que chacun y trouve ce qu'il veut, et chacun y trouve en général ce qu'il n'aime pas chez les autres, vous voyez. Meyerbeer, oh la barbe, Weber c'est bien, d'accord, on pardonne, Marschner on connaît pas, c'est une œuvre, un scénario, un livret compliqué, et pas si compliqué que ça finalement. Je comprends pas, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement d'opéras de baroque qu'on nous inflige pendant 4h30 que là, 4h, parce que c'est long l'effet, quand j'ai appris que ça durait 4h, c'est un des messieurs qui me donnait une petite feuille de programme, j'ai fait une réflexion, je me disais, parce que c'est un opéra du début, on en aura pour 2h30 sans entracte, et ça durait 4h. Donc tout ça fait que, mais on se demande vraiment pourquoi c'est pas donné davantage. Moi, c'est merveilleux qu'on l'ait vu au Châtelet. Je regrette que ni Bernard Lefort, qui a fait tellement de choses au Festival d'Aix, ni ses successeurs ne l'aient donné à Aix.
Donc, c'est beaucoup d'audace dans cette.
Mais oui,
dans
bien
cette
sûr,
c'est
une. Oui, enfin, c'est bien. Et je pense que l'idée de Chopin en le donnant, c'est de renouer justement. Mais je crois qu'il l'a dit dans un article, je ne sais pas où, c'est de renouer avec ses féeries. Et peut-être qu'il serait bien de retrouver aussi, alors, mais ça c'est autre chose, et ça même pas la qualité musicale, quelques-unes de ces grandes féeries qu'on donnait dans les théâtres des boulevards entre 1790 et 1840. C'est en plein dans cet esprit-là. Moi, je dirais pas que c'est une œuvre magnifique, je dirais que c'est une œuvre très intéressante et qui, bien interprétée, peut être exaltante, mais pas pour l'œuvre elle-même. C'est pas Tristan, c'est pas Tannhauser. Je trouve ça mieux que Rienzi. Voilà.
J'ai envie de vous demander si vous vous considérez comme un wagnérien.
Oui, je suis wagnérien. Je vais depuis des années à Bayreuth. J'ai même écrit un roman qui s'appelle « Salut pour moi le monde », qui est paru chez Gallimard il y a très très longtemps, et dont l'action est rythmée par les 4 journées de la tétralogie de Wagner dans cette mise en scène fameuse, dirigée par Pierre Boulez, avec Patrice Chéreau, les décors de Peduzzi et les costumes de Jacques Schmitt, qui était une immense. C'est probablement ce que j'ai vu de plus beau à l'opéra dans toute ma vie, et je m'en étais servi pour rythmer cet opéra, ce livre, qui a eu un petit succès chez Gallimard il y a très longtemps. Et je me souviens, quand il est paru, je rencontre Chéreau l'été suivant, et je lui dis, alors, vous avez lu ça? Il dit, ah oui, j'ai détesté, vous vous êtes approprié mon œuvre. Ça me faisait plaisir. En revanche, Richard Peduzzi, que je connais beaucoup mieux, l'avait aimé. Donc je crois que je suis un wagnérien, je suis wagnérien et straussien complètement, et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je me disais, c'est pas du Wagner. Mais encore une fois, moi, j'ai tellement été échaudé par Rienzi, que je connais, que j'ai entendu assez souvent, que aussi il y avait ça. Mais c'est fantastique d'entendre des vrais chanteurs wagnériens comme ceux qu'on a entendus hier. Thank you.
qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'aime pas Wagner ou qui ne connaît pas Wagner ?
Ben je lui dirais d'y aller tout de suite parce que ce n'est pas du Wagner. Donc voilà, c'est la première chose. Et si on ne connaît pas Wagner, je dirais bien, de commencer par la Valkyrie et puis d'écouter la Valkyrie, qui est une des choses les plus faciles, si j'ose dire, de Wagner et les plus bouleversantes. Et puis, s'il n'aime pas Wagner, je lui dirais, d'aller écouter de la musique baroque à longueur de journée dans une abbaye, quelque part dans les régions de France, où on vous donne ça pendant des heures et pendant des heures.
Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, chez Wagner ? C'est son génie, c'est sa musique,
c'est
engagement pour un art total, c'est l'amour.
C'est l'art total. Quand j'avais 17, 18 ans, 19 ans, ce qui me séduisait et qui m'émouvait beaucoup, c'était l'utilisation des leitmotifs. J'avais un plaisir à retrouver. Vous avez l'or du Rhin qui est le début de la tétralogie et ces fameuses 137 ou 127 premières mesures dans lesquelles il n'y a rien, puis peu à peu le Rhin bouge et puis peu à peu quelque chose commence à naître et dans l'or du Rhin vous aurez la racine de la Valkyrie. Dans la Valkyrie vous avez Siegfried qui est annoncé et vous avez le crépuscule des dieux dans lequel il y en a presque trop. Et j'étais avec un groupe d'amis à l'époque, j'étais en première au lycée Condorcet et nous allions voir, il y avait eu deux années, il y avait eu des représentations de la tétralogie par des gens de Bayreuth, c'était Plufurt Wangler qui dirigeait Hans Kapertzbusch et on faisait la queue pour avoir des places. Si on n'en avait pas assez, on changeait d'acte. J'ai emmené les jeunes filles que j'avais envie de séduire. À l'époque, j'aimais beaucoup séduire les jeunes filles avec l'opéra. Maintenant, je suis un peu plus âgé, mais j'aimerais toujours le faire. Et c'était vraiment ce spectacle total. Et puis, c'est les grandes histoires de Wagner. Maintenant, on nous dit Parsifal, c'est néo-fasciste ou néo-nazi. Je veux bien le croire, mais enfin, c'est Parsifal. Et on pourrait dire que Parsifal, c'est aussi une grande messe. Et dans les meetings nazis, on applaudissait à tout rompre et on hurlait. À Parsifal, à la fin du premier acte, il était entendu qu'on n'applaudissait pas. Donc, voilà. Et je suis même arrivé, alors que pendant longtemps j'aimais moins les maîtres chanteurs, je suis arrivé aussi les maîtres chanteurs, et puis j'aime tout, même les moins connus, même les moins grands. Comme le vaisseau. Mais pour moi, Wagner, c'est essentiellement ce que j'aime passionnément, c'est la tétralogie et Tristan. Je ne compterai pas le nombre de fois des tétralogies entières, on en voit moins. Oui. En ce moment, il y en a une passionnante à Aix avec la dernière phase qui va se donner cet été avec un crépuscule des dieux donné par le Berliner qui sera, tandis qu'au Festival de Pâques de Salzbourg, dans quelques jours, on donne le Siegfried qu'on a donné l'année dernière. Et c'est un très bel exemple de coproduction entre deux festivals. Non, ce que j'aime, c'est le côté festival total, c'est cette musique envoûtante, ces voix magiques. Vous voyez, je dis que j'ai appris à lire presque dans, par exemple, le premier acte de la Valkyrie, enregistré par Bruno Walter, je crois que c'était en 1936, avec Lotte Lehmann en Sieglinde, avec Loritz Melchior en Siegfried, et avec Emmanuel Liszt en Hunding. Et vraiment, avec ce premier acte de la Valkyrie que m'avait fait découvrir mon cousin André Tuboeuf, j'ai vécu en intimité, mais totale, pendant des années et des années, et je les ai usés sous moi, je les avais en micro-sillon, j'ai changé deux fois, trois fois, quatre fois les micro-sillons. C'était un peu comme le Don Juan du Festival de Glyndebourne, aussi, qui est aussi un des grands, grands classiques enregistrés, lui, en 1936. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et je fais partie de ces gens qui disent « Ah, il n'y a plus de chanteurs comme autrefois ».
Mais il y en a.
Mais je vis encore, vous savez, je suis un vieillard, j'ai eu 72 ans il y a 4 jours, je m'en suis pas vraiment relevé, mais enfin, on essaie de me relever, mais j'ai vécu vraiment dans le mythe, sous l'aura du mythe de quelques très très grands chanteurs, et ça fait plaisir, mais vraiment plaisir de trouver une Christiane Libor. Alors c'est arrivé quelquefois, moi je me souviens de grandes chanteuses que je découvre comme ça en me disant, Et puis 3 ans après, c'est fini. Bon, mais j'espère que Christiane Libor, ça va continuer.
Même s'il n'y a que quelques représentations, j'invite les auditeurs à se précipiter. C'est joué jusqu'au 9 avril pour la dernière représentation.
Les 27 mars, 1er, 4 et 7 et 9 avril à 19h30 et le 29 mars à 15h, ça doit être un dimanche, je suppose.
Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Jean Rémy.
Je vous remercie, j'étais très heureux de venir. Invitez-moi à nouveau.
Merci.
Au revoir.